La quatrième chambre de la Cour d'appel de Lyon a rendu mardi 2 novembre 2010 l'arrêt concernant Tony Musulin, ce convoyeur de fonds qui, le 5 novembre 2009, s'était enfui au volant de son fourgon avec les 11 605 000 € qu'il contenait. Les juges de la Cour d'appel ont confirmé la décision de première instance sur la culpabilité du prévenu et ont prononcé une peine de 5 ans de prison contre 3 en première instance. Les avocats ont crié à l'injustice et ont annoncé dès la sortie de l'audience qu'ils se pourvoiraient en cassation et qu'ils saisiraient la Cour européenne des droits de l'homme. Au-delà de la polémique et des effets de manche, cette affaire a mis sous le feu des projecteurs la Cour d'appel de Lyon, dont l'activité, comme toutes ses homologues en France, n'est pas limitée à des cas aussi médiatiques. Prenant prétexte de l'agitation suscitée par l'affaire Musulin à Lyon, les micros de Transistor se sont penchés sur cette institution qui rend une justice quotidienne et banale, loin de l'effervescence des grands procès.
La justice, c'est du cas par cas. C'est du sur-mesure.
Nous avons donc voulu comprendre comment fonctionnait cette justice sur-mesure en appel, quels en étaient les rouages et les procédures. Mais nous avons aussi cherché, au-delà de cette machine bien huilée qu'est la Cour d'appel, à découvrir les acteurs de cette justice, ceux qui la rendent, ceux qui la subissent, ceux qui la demandent. Enfin, à l'heure où l'on privilégie la réduction des dépenses publiques, tout en exigeant une efficacité judiciaire accrue, est-il toujours possible de rendre une justice sur mesure?
De façon générale, les gens connaissent assez mal le fonctionnement de la justice, j'allais dire, sauf ceux qui y passent régulièrement.
La cour d'appel, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Anne Vion, magistrate, conseillère à la 4e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon.
En matière pénale, la cour d'appel peut intervenir dans tous les cas. Ce qui n'existait pas, notamment en cour d'assises, jusqu'à il y a une dizaine d'années, puisque c'est Elisabeth Guigou qui a créé le double degré de juridiction en cour d'assises. Alors, on peut te faire appel de tout, sauf des contraventions des toutes petites classes. Par exemple, si vous êtes surpris à votre volant avec un téléphone portable en main, vous ne pouvez pas faire appel de l'amende qui va vous être infligée. Pour tout le reste, on peut faire appel. Qui fait appel? Essentiellement le condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait de la décision rendue à son encontre. Et le procureur de la République peut également faire appel dans les 10 jours qui suivent le jugement s'il n'est pas satisfait de la décision du premier juge. Soit qu'il estime la peine pas assez lourde, soit qu'il estime éventuellement qu'il y a une erreur d'application du droit. Quelles sont les spécificités de la cour d'appel? Bon, elle intervient donc en deuxième instance, donc plus tard. Nécessairement, du temps s'est écoulé. Et à la fois, c'est un avantage parce qu'elle est plus sereine, elle a plus de distance par rapport à la date des faits, la rumeur publique, la médiatisation eh bien, est beaucoup plus faible devant la cour d'appel qu'en première instance. Le contexte, je dirais, public, extérieur, a beaucoup changé parce que le temps s'est écoulé. Le deuxième élément, c'est qu'elle intervient éventuellement 2 ans, 3 ans après les faits, parfois 5 ans après les faits, et on ne juge pas la même personne. Elle a évolué, c'est parfois d'ailleurs très intéressant parce que elle s'est peut-être rangée, elle a un travail, elle a peut-être des enfants, alors la sanction sera différente évidemment de ce qu'elle a été en première instance.
Véronique Escolano, substitut général au parquet général de la Cour d'appel de Lyon et magistrat délégué à la communication.
En France, déjà, il y a 35 cours d'appel. Voilà, je crois que ça c'est important comme élément. 35 cours d'appel et que la Cour d'appel de Lyon couvre 3 départements. L'Ain, le Rhône et la Loire. Bon. Sur ces 3 départements, c'est ce qu'on appelle le ressort de la Cour d'appel de Lyon, hein. Sur ces 3 départements, il y a 6 TGI, 6 tribunaux de grande instance, il y a 10 tribunaux d'instance, ensuite 8 conseils de prud'hommes, 5 tribunaux de commerce, est-ce que j'ai oublié dans le lot, et 11 juridictions de proximité. Voilà, pour vous donner une idée de l'activité et de l'ampleur de l'activité juridictionnelle.
Alors, jusqu'à une date récente, il n'y avait pas de hiérarchie, et depuis 5 ou 7 ans, on a institué les juridictions interrégionales spécialisées dans la grande criminalité, dans la criminalité organisée. De manière à ce que, quand des affaires avaient des ramifications, évidemment, les délinquants ne s'arrêtent pas à la frontière de la cour d'appel. Et quand les affaires ont des ramifications importantes ou qu'il convient d'enquêter à l'étranger, On a considéré qu'il était plus simple de confier ces affaires souvent importantes à un seul magistrat ou à un pôle de magistrats spécialisés. C'est pour cela que le pôle a été installé à Lyon et les affaires importantes de grand banditisme de Grenoble sont maintenant jugées à Lyon. Quels sont les pouvoirs de la Cour d'appel qui la différencie des cours de première instance ? Elle a les mêmes pouvoirs. S'il lui semble qu'une expertise psychiatrique, par exemple, une expertise technique, une expertise de l'arme, par exemple, qui n'a pas été faite en première instance, s'il apparaît à la Cour que cette expertise, que ce supplément d'information est indispensable, elle peut le réaliser.
Maître Hervé Guyénard, avocat à la Cour.
Les magistrats à la Cour d'appel sont plus souvent en fin de carrière, proche de la fin de carrière. C'est aussi une question d'évolution de carrière. Un peu coupé des réalités du terrain, de la justice de première instance. Je vous parlais tout à l'heure de justice d'abattage. Il y a certaines audiences au tribunal où sont fixées pour un après-midi une trentaine d'affaires. Alors même s'il y en a 5 ou 7 qui sont envoyées en début d'audience, il en reste 23 ou 24 pour 6 heures d'audience. Ça fait un quart d'heure par affaire, j'allais dire douche comprise. Hein, vous imaginez ? La Cour d'appel, c'est un petit peu différent. Il y a énormément d'affaires qui échappent à leur contrôle. On est avec des magistrats, un public de magistrats différents, qui lorgnent plutôt vers le haut la possibilité d'aller à la Cour de cassation que vers le bas qu'ils ont pour mission de juger. C'est pas le même public, c'est pas les mêmes magistrats.
Il y a 122 dossiers jugés en matière criminelle chaque année. Il y a sur ces 122 à peu près une vingtaine d'appels.
C'est-à-dire qu'il y a des dossiers dont on sait à l'avance, tellement les antagonismes sont forts, qu'ils iront dans la cour d'appel. Musulin, on savait que ça irait en appel. La décision a été rendue hier. Kervienne, on savait que ça irait en appel. Ce qui se passe autour de l'affaire Bettencourt, ça ira en appel, ça ira en cassation, ça ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je l'annonce déjà, et je ne suis pas devin, simplement, on sait très bien ce qui se passe. On sent, nous, quand même, les dossiers qui vont aller jusqu'au bout du bout. On sent les dossiers dans lesquels le jugement de première instance peut jouer à la fois comme élément de régulation, parce que c'en est un, la justice pénale c'est un élément de régulation de la vie en société, et à la fois élément d'apaisement.
Le temps est une notion importante à la justice. Le temps de la justice, ce n'est pas, par exemple, le temps médiatique. C'est l'opposé. C'est-à-dire que la justice fait son œuvre avec le temps et la distance. On n'est pas dans la réactivité immédiate à la cour d'appel. Ça ne veut pas dire que on juge avec des délais d'attente qui sont au-delà des normes. Hein. Je distingue dans le temps de la justice Le temps d'attente pour juger et le temps nécessaire à l'œuvre de justice. C'est ce temps-là qui est nécessaire. Et ce qui est frappant, c'est de constater qu'effectivement, à la cour d'appel, les procès les plus surmédiatisés en première instance deviennent beaucoup plus sereins. Et ça, c'est une constante en appel. Et je dirais que l'exemple tout récent qui vient de se dérouler, c'est l'exemple de l'affaire Muselin. L'affaire Muselin, en première instance, vous aviez 2/3 en plus de journalistes.
C'est-à-dire qu'on apporte un autre regard, on a un autre regard sur le dossier. Alors c'est toujours plus facile, une fois que le dossier est terminé et qu'on sait grosso modo ce qu'a fait chacun des protagonistes, c'est beaucoup plus facile de critiquer le dossier d'instruction. Le collègue qui a instruit, lui, était dans l'immédiateté, il était sur les éléments de preuve qu'on lui apportait, il a suivi une certaine direction, son regard n'a peut-être pas pris assez de recul pour envisager des annexes au fait des éléments périphériques qui se révèlent après avoir une grande importance.
La Cour d'appel, c'est indispensable. Un second degré de juridiction, c'est absolument indispensable dans un État démocratique.
C'est quand même le respect aussi des droits des gens, parce que vous avez le droit, quand vous n'êtes pas content d'une décision, d'en faire appel. Et maintenant, c'est inscrit dans la CEDH, donc c'est au niveau européen et intangible. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'avait dit Elisabeth Guigou, on ne pouvait pas se permettre de n'avoir qu'un degré de juridiction aux assises, puisqu'on avait des gens qui pouvaient faire appel d'une décision concernant un excès de vitesse, et un accusé condamné à 20 ans d'emprisonnement pour meurtre ne pouvait pas faire appel. ça n'était plus justifiable, et c'est pour ça qu'on a créé le deuxième degré de juridiction de cour d'assises dans les années 2000.
Il n'y a plus rien derrière nous, puisque c'est le moment, le dernier moment où ils vont parler pour pouvoir s'exprimer. Il y a des prévenus qui ne se sont jamais exprimés en première instance, parce qu'ils ont été, par exemple, touchés à leur personne, mais qui ne sont pas venus. Et en seconde instance, pour eux, c'est le deuxième procès, juridiquement, mais judiciairement, non.
Effectivement, moi, je connais des gens à qui le fait de comparaître devant une juridiction correctionnelle, mais ça fait ni chaud ni froid. À la limite, ça fait partie de leur existence. J'ai quelqu'un qui sera à votre place demain ou lundi, je ne sais plus. Je l'ai déjà défendu 10 ou 15 fois devant les juridictions. Ça a commencé, j'étais jeune avocat, ça fait 18 ans que j'exerce, et ça fait 18 ans que je défends. Alors, pour lui, malheureusement, hein, c'est un homme qui a 43 ans maintenant. Depuis le temps que je le connais, il a passé plus de temps en détention que de temps dehors. Et quand il passe un an ou deux dehors, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui, il va se passer quelque chose. Et immanquablement, il se passe quelque chose dans les mois qui viennent, parce que je pense que maintenant il est arrivé à ce point de désorganisation, mais les privations successives de liberté y ont contribué, qu'au bout d'un moment, la prison est un contenant. Et puis bon, il y a aussi chez celui dont je vous parle des problèmes d'alcool plus, donc évidemment, quand il est désinhibé sous l'effet de l'alcool, il peut un petit peu faire n'importe quoi. Et évidemment, comme il a un casier, donc pas majeur sans pain, comme on dit, quand il passe devant les juridictions, maintenant, ça commence à être lourd.
Alors la Cour de cassation ne juge pas une troisième fois. La Cour de cassation vérifie la bonne application du droit. Par exemple, il m'est arrivé d'appliquer une peine qui était supérieure au maximum prévu par la loi, parce que j'ai considéré que j'avais la possibilité d'appliquer un article qui prévoit dans un certain cas qu'on peut multiplier la peine par 5. Or, le parquet général n'était pas d'accord avec ma façon d'appliquer le texte. Donc, le parquet général a fait un pourvoi, et c'est la Cour de cassation qui dit comment on applique la loi. Quand quelqu'un fait un pourvoi en cassation, les avocats de l'affaire Tony Musulin qui vient dans l'arrêt vient d'être rendu ont annoncé un pourvoi en cassation, ils ne vont pas pouvoir argumenter leur pourvoi par le fait que la Cour d'appel s'est montrée trop sévère, par exemple. Ça n'est pas possible. Ils vont dire la Cour d'appel n'a pas appliqué de manière satisfaisante tel texte de loi.
C'est un vice de forme.
Un vice de forme éventuellement. Ils vont notamment attaquer sur l'extradition, l'arrestation de M. Musulin qui s'est rendu à Monaco, aurait-il fallu une extradition ou non ? La remise à la police a-t-elle été conforme à la loi ou non ? La décision de la Cour de cassation, soit elle rejette le pourvoi en considérant que la Cour d'appel a bien appliqué la loi et du coup l'arrêt se trouve définitif, l'affaire est définitivement jugée, elle est intangible. Soit la Cour de cassation considère que le droit a été mal appliqué, elle casse, mais elle ne peut pas rejuger. Elle casse en renvoyant la procédure devant soit la même Cour d'appel autrement composée, soit une autre Cour d'appel. En général, elle choisit une Cour d'appel limitrophe et l'affaire sera à nouveau jugée. Et l'arrêt pourra à nouveau éventuellement être cassé par la Cour de cassation. On a déjà vu le cas. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle formation de la Cour d'appel avec un plus grand nombre de juges qui statuent.
La Cour d'appel en pratique, à partir d'un élément essentiel, l'audience.
J'ai un certain nombre de clients à qui je n'ai pas du tout besoin d'expliquer comment ça fonctionne et qui, lorsqu'ils vont être à l'audience, vont savoir qui appelait M. l'avocat général, qui appelait M. le procureur de la République et qui appelait M. le président. Et qui ne vont jamais dire votre honneur, parce que ça se voit dans les films américains et pas dans les juridictions françaises. Mais ça, c'est un petit peu l'exception. Le cas le plus général, c'est celui de personnes qui sont jamais trop rentrées dans une enceinte judiciaire, qui ne connaissent pas bien le fonctionnement, et à qui on doit décrypter le fonctionnement, justement, pour leur permettre de ne pas trop appréhender. Je pense qu'il est important de décrypter et de permettre aux gens de savoir ce qui se joue au-dessus de leur tête. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être lu L'étranger de Camus, relisez les passages sur le procès de l'étranger où c'est finalement le justiciable à qui son procès, et il sera condamné à mort, vous en souvenez, son procès lui échappe complètement. Et il est étranger même à son propre procès et il comprend rien de ce qui se passe.
Alors, quels sont les acteurs de procès en appel? Les mêmes, à savoir le condamné au pénal, le procureur qui est à ce moment-là, qui devient le procureur général et ses substituts généraux, donc les magistrats de la cour d'appel, et les mêmes avocats, sauf si l'intéressé change d'avocat, ce qui est toujours possible.
Et les parties civiles?
Toujours. Sont toujours là.
Monsieur, je vous appelle à la barre. Donnez-moi votre identité, ça commence comme ça. Identité, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quels sont vos revenus? Question obligatoire. Voilà, monsieur, votre casier judiciaire dit ça. Et maintenant, voilà ce qu'on vous reproche. Voilà ce qu'on dit les uns, voilà ce qu'on dit les autres. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Après, éventuellement, plaidoirie de la partie civile. Après, réquisitoire du procureur de la République. Après, plaidoirie de la défense et décision.
Bien sûr que tout est fonction de ce qui se passe à l'audience. Mais je ne dissocie pas, d'ailleurs, aussi bien le comportement d'un accusé, on l'a, mais surtout son regard sur les faits. Son regard sur les faits et son regard sur la façon dont il va expliquer les choses de nouveau à l'audience. Après, il faut le souligner, l'écoulement du temps.
Alors on est sensible évidemment à l'agressivité qui se dégage d'un prévenu, ou à la façon dont il adresse la parole, au vocabulaire qu'il utilise, ou la façon dont il parle de la victime, s'il en parle en termes dévalorisants, péjoratifs. On a aussi des prévenus qui sont qui ne savent pas bien se maîtriser, qui ont un vocabulaire relativement réduit. Nous ne devons pas, nous, en tirer des conséquences au niveau de la peine ou même de la culpabilité, bien évidemment. Et d'où l'intérêt de placer l'affaire en délibéré et de ne rendre la décision qu'un mois plus tard. Et même, je dirais, de délibérer. Souvent, on délibère au sortir de l'audience. On se met d'accord sur la peine et parfois on sort trop tard et on le fait 2-3 jours plus tard. Et parfois, on décide de ne le faire qu'une semaine après, pour reparler de l'affaire quand il y a eu des moments de friction entre le condamné, la personne qui est en appel, et la partie civile, entre le parquet général et le condamné, ou que le condamné nous a déplu, qu'il a dit des choses qu'on a trouvées inacceptables. Bien souvent, il vaut mieux qu'on se donne un peu de temps pour que l'affaire se décante, pour que nos impressions d'audience cèdent le pas par rapport à la réalité du dossier et le fond de la personnalité du délinquant. On essaie de ne pas se laisser impressionner par le contexte, par l'apparence.
Notamment lorsque la culpabilité est reconnue. C'est important aussi d'avoir, au moment où on passe en jugement devant le tribunal, un prévenu qui est capable d'avoir un mot critique vis-à-vis de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé. Parce qu'on se dit que s'il est capable de critiquer ses propres actions, il est capable de ne pas recommencer. Vous avez en revanche ceux qui, tout en reconnaissant les faits, n'expriment absolument rien de critique, pratiquement pas de regrets, pratiquement pas de remords. Alors on leur demande pas non plus de battre leur coulpe, on n'est pas dans les procès staliniens, c'est pas du tout ça, mais au moins être capable de dire « oui, bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis pas fier de moi », au moins d'être capable de dire ça, ça me paraît être le strict minimum. Encore faut-il que le propos soit sincère, hein, parce que quand le propos sonne creux, de toute façon, c'est presque pire. Puis vous avez aussi ceux et celles qui ne seront pas capables d'apporter cette réflexion, auquel cas nous on essaye là encore un petit peu de lisser les choses, de façon qu'il n'y ait pas de grosses bêtises qui soient dites devant les magistrats. J'ai le souvenir, mais on a des souvenirs cuisants à l'appel, mais d'un monsieur qui devait passer devant le juge d'instruction en première comparution. Il était accusé d'attouchement sur sa gamine. Et classiquement, on voit les gens dans les geôles avant qu'ils passent devant le juge. Et je lui dis, mais quel regard vous portez? Quelles sont vos explications sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on vous reproche? Il me dit textuellement, j'ai fait une boulette. J'attendais, c'est un peu plus que ça quand même. Donc j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que j'estimais nécessaire avec lui pour qu'il soit capable de comprendre qu'on était au-delà de la boulette et qu'il soit capable de l'exprimer. On passe un moment, on passe vraiment le temps nécessaire et une heure et demie plus tard, on passe devant le juge. Monsieur, quelles sont vos explications? J'ai fait une boulette. Bon, voilà, perdu.
On accepte parce qu'on se sent coupable. Vous pouvez très bien avoir des éléments pour asseoir une culpabilité judiciaire et avec un individu, un accusé qui est un condamné par la suite, éventuellement, qui ne se sent pas coupable et donc qui n'a pas de culpabilité, comme on dit vrai, une culpabilité psychologique. Or, c'est la culpabilité qui fait progresser les choses et qui rend les choses acceptables.
La situation géographique de la juridiction est extrêmement importante. Si vous êtes magistrat ou avocat à Paris, vous allez avoir une délinquance un peu particulière, beaucoup de délinquances financières, vous avez beaucoup de sociétés, vous avez également beaucoup de délinquances de voies publiques, de vols de sacs à main, de vols de porte-monnaie et des délinquances de ce type. Si vous êtes dans le nord de la France ou si vous êtes en Bretagne, le contexte d'alcoolisation massive de la population va entraîner un profil différent des affaires, avec beaucoup d'agressions sexuelles et beaucoup de conduite en état alcoolique et beaucoup de violence liée à l'absorption d'alcool. Quand on est dans une région économiquement dynamique, comme c'est le cas de la région Rhône-Alpes, bordée de frontières comme vous le dites, et puis sur un axe routier qui va de la Hollande à l'Espagne, on est sur le trajet des stupéfiants, et nécessairement ça induit une certaine délinquance. Une délinquance qu'on concrétisera davantage encore avec les péages autoroutiers. La proximité, évidemment, de la Suisse, alors, pour des raisons frontalières, des raisons éventuellement d'évasion de capitaux ou des choses comme cela, mais aussi une région, un pays riche. On peut aller voler dans les parkings ou avec armes des véhicules extraordinaires, des véhicules d'un grand prix, des véhicules d'une grande puissance, et puis aussi beaucoup de braquages dans des bijouteries et dans l'horlogerie de luxe, c'est certain. Et puis on est aussi à un carrefour de frontière avec l'Italie, donc on peut aussi commettre des actes de recel et fourguer le butin et le dispatcher dans divers pays. On est aussi sur la route des Balkans. Donc effectivement, une bonne délinquance, une délinquance intéressante, mais sans milieu. Lyon n'a pas de milieu, n'a plus de milieu de gangs et de milieux délinquants comme ça a été le cas dans les années 70. Un tel milieu, vous le retrouvez à Grenoble, étroitement lié aux stupéfiants, et vous le retrouvez également à Marseille.
La tendance lourde de la Cour d'appel de Lyon est une tendance de rigueur. Et nous avons plutôt tendance à déconseiller à nos clients de faire appel parce qu'il y a des enjeux. La tendance est plutôt à l'aggravation des peines lorsqu'il y a une confirmation de la décision de culpabilité. C'est la tendance lourde qui existe depuis, en tout cas, elle me préexistait. Moi, ça fait 18 ans que j'exerce. On a toujours connu à Lyon une cour d'appel plutôt sévère, avec des compositions plutôt sévères.
On va s'adapter en fonction de la façon dont le prévenu perçoit les choses. Vous savez, il y a des différences quand même d'approche qui sont essentielles, parce que entre un primaire, ce qu'on appelle chez nous un primaire, c'est-à-dire la personne qui commet pour la première fois une infraction pénale, entre cette personne-là et un multirécidiviste qui a, je sais pas, une vingtaine de condamnations à son casier judiciaire, il est bien évident qu'on n'aura pas la même perception des choses. Sur l'efficacité, entre guillemets, d'un réquisitoire, je dirais qu'il faut rester humble et que, bien entendu, quand les réquisitions sont suivies, on a le sentiment d'avoir convaincu. Mais il faut avoir conscience qu'il n'y a pas que les réquisitions, il y a un dossier, il y a des éléments, on fait avec ces éléments. C'est de donner tous les éléments à la cour pour qu'elle statue en toute objectivité et en toute impartialité. Voilà, c'est ça notre rôle. Hein. C'est pas d'obtenir à tout prix la condamnation, même si on sait que y a des failles dans le dossier. Non.
L'audience, c'est aussi une bataille stratégique. Il faut savoir se positionner, savoir poser ses lignes et savoir quelle bastion défendre. Notre façon de plaider est différente en fonction des magistrats. Notre travail aussi, c'est un travail de connaissance de nos magistrats, des magistrats dans lesquels on plaide. À force de les connaître, on sait quel type d'argument marche plutôt bien, quel type d'argument passe pas du tout. Et ça, c'est aussi notre travail de comprendre. Et puis, en plaidant, on surveille les réactions des magistrats. Quand on les voit qui commencent à grincer des dents, on change vite de sujet et on passe à quelque chose d'autre. Quand vous plaidez un dossier, quand vous passez à 20h devant un magistrat qui est en hypoglycémie, vous plaidez pas de la même façon ni sur la même longueur. que si vous plaidez, le dossier à 14h. Donc, dans ce genre de cas, une plaidoirie correctionnelle à 20h, ça se limite à 3 minutes. D'accord ? Pas de fioriture à 20h, on est fatigué, on a en face de soi quelqu'un de fatigué.
Je pense qu'en appel, les plaidoiries sont plus courtes, portent sur moins d'éléments, puisque les choses ont été décantées par le procès de première instance, et l'atmosphère est beaucoup plus apaisée qu'en première instance. En première instance, on a encore une certaine réactivité des uns et des autres. Et je dirais que la distance est supérieure, même quand on juge en appel assez vite, parce que quand on juge un détenu, ça peut être moins de 6 mois après les faits. Donc on est finalement dans une dimension temporelle qui n'est pas la même que des affaires dont je vous parlais quand on juge 5 ans après les faits initiaux. Mais néanmoins, le temps s'est écoulé, le temps a fait son œuvre, et il y a eu ce premier regard du premier juge.
On a l'éclairage de ce qui a marché en première instance et de ce qui n'a pas marché en première instance. Qu'est-ce que je dois faire maintenant dans la cour d'appel pour essayer de faire entendre ma thèse et essayer de la faire adopter aux 3 nouveaux magistrats qui vont prendre ce dossier?
Et est-ce qu'on théâtralise la façon dont on s'exprime ou sans doute, on n'est pas comme dans la vie civile, bien évidemment, mais c'est toujours à des fins pédagogiques, de manière que la personne qui est en face comprenne bien le contexte, comprenne bien pourquoi il a été poursuivi, comprenne bien comprennent bien pourquoi elle est là. Hein. Le but est toujours quand même de resituer on n'est pas dans une discussion de salon, on est dans un procès, et donc on va nous recadrer les personnes de manière à ce que leurs paroles soient utiles, non pas pour les empêcher de dire certaines choses, mais pour rester dans le contexte. Il y a souvent, on ne pose que des questions dont on connaît la réponse. Donc effectivement, il y a une certaine théâtralité.
C'est une question qui revient souvent, qui est souvent posée aux avocats. Elle m'intéresse parce que j'ai fait pas mal de théâtre. Je vous dirais quand même, je vous ferai une réponse en deux tours, en deux temps. Oui, le théâtre peut énormément aider. Quand j'ai commencé ma profession, quand je suis rentré dans la profession, j'avais suspendu le théâtre et j'ai repris 2 ans après, et tout de suite quand j'ai repris le théâtre, j'ai été mieux en audience. Je me sentais mieux en audience parce que j'ai réappris les techniques, et il y a beaucoup évidemment de techniques de théâtre qui sont des techniques d'art oratoire, tout simplement, qui peuvent être utilisées au quotidien. Cela dit, utiliser les recettes du théâtre, oui, jouer au théâtre, non. Lorsque je suis en audience avec quelqu'un que je défends, c'est de sa vie dont il est question, c'est de son existence, et sur son existence que des gens ont un pouvoir énorme, un pouvoir de dire, ben voilà, votre existence maintenant pendant les X années qui viennent, elle va se dérouler entre les 4 murs d'une prison. Moi, je considère que ce que je fais, c'est tout sauf du chiquet, c'est du réel, c'est du vrai. Parfois, on défend parfois des gens dont la situation est incroyablement dégradée, et on défend des gens qui sont dans le tiers ou dans le quart monde. Donc ça aussi, c'est important que les magistrats en prennent conscience.
Est-ce qu'on est moins sévère avec Jean Valjean ?
Oui, je pense, quand même.